Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
កម្ពុជាព្រះរាជាណាចក្រអាចរ្យាដល់ភីមកក់ដៅ
Bienvenue au Cambodge, ses paysages sublimes, sa cuisine délicate, ses temples, sa population dynamique et son absence de Covid. Un paradis sur terre ? Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos, et je vous propose de revenir avec moi sur le mystère de l'exemption asiatique. Il y a quelques semaines, on avait parlé dans la story de cette exception asiatique et de l'absence d'une troisième vague en Chine, en Corée ou au Japon. On avait parlé de l'habitude de porter le masque, mais aussi des politiques mises en place par les gouvernements locaux pour expliquer la faible diffusion du virus, quel que soit le régime politique. Mais il y avait un angle que je n'avais pas abordé, la question immunitaire. Yann Rousseau, correspondant des Échos au Japon, a attiré mon attention sur les recherches menées dans ce pays pour essayer d'expliquer l'absence de troisième vague. Bonjour Yann Rousseau.
Bonjour.
Avant de parler de ces recherches menées au Japon, on va faire un point de l'épidémie dans la région. Alors que l'Europe est en plein cœur de la deuxième vague, qu'en est-il en Asie ?
Ben alors en fait, il y a eu une troisième vague, c'est-à-dire qu'on est dans la troisième vague. Ici, on estime qu'il y a eu, donc là je vous parle plutôt de l'Asie de l'Est, hein, cette partie qui a l'Asie du Sud-Est, donc l'ASEAN, les pays Thaïlande, Cambodge, puis les grands pays développés d'Asie de l'Est, Corée, Japon, Taïwan, et puis même de la Chine, puisque c'est à peu près les mêmes graphes, les mêmes courbes. Donc on est dans une troisième vague, nous ici au Japon et aussi en Corée, qui a commencé vers la mi-novembre avec le retour du froid, alors qu'on avait vu la première vague en début d'année comme tout le monde, puis une vague au début de l'été, et cette troisième vague là qui est très présente depuis que les températures se sont refroidies. Donc on est dans cette phase-là.
L'Asie, on est déjà à sa troisième vague, mais vu d'Europe, ça ressemble plus à une vaguelette. La région paraît relativement épargnée.
Oui, tout à fait. La réalité qu'on vit, nous ici en Asie de l'Est, est très très différente de ce que vous vivez en Europe de l'Ouest ou aux États-Unis. Il faut voir que les chiffres sont vraiment plus faibles. Quand je parle de troisième vague, donc là, sur cette fin d'année, début d'année, hein, cette période assez froide, on est sur du 3000 cas par jour au Japon. Donc, c'est un pays qui fait 126 millions d'habitants et qui a 3000 cas par jour, et c'est le pire de l'année. C'est le pic pour eux. En Corée, il y a eu une flambée d'inquiétude fin décembre quand ils ont passé les 1100 cas par jour. Donc, il faut voir qu'on n'est pas du tout sur les volumes, le nombre de cas que vous vivez en Occident avec une France qui va déconfiner alors qu'elle est encore à 18 000 cas jour. Donc, si vous voulez, nous, on n'a jamais connu les niveaux de contamination, la fréquence de contamination que vous avez connue, vous, en Europe de l'Ouest ou que les États-Unis ont connu. On en est très, très loin. Pareil pour la mortalité. C'est extrêmement faible. J'ai fait un petit calcul rapide sur tous les morts depuis janvier en Asie du Sud-Est, donc les 10 pays de l'ASEAN, Cambodge, Indonésie, Thaïlande, Vietnam. On a des grands pays, hein, de plus de 100 000 habitants pour certains. Plus Japon, plus Chine, plus Corée, plus Taïwan. Et au total, donc dans tout cet arc de l'Asie de l'Est, on a 40 000 morts à peu près pour 30% de la population mondiale. L'Asie de l'Est, c'est 2,3 milliards d'habitants. Donc, 30% de la population mondiale et seulement 2,3% de la totalité des morts depuis le mois de janvier. Donc, on ne voit pas du tout la même dangerosité, le même impact humain, le même bilan humain que vous voyez. Si vous voulez, le pire pays en termes de morts par million dans toute l'Asie de l'Est, c'est les Philippines. Les Philippines, c'est 80 morts par million d'habitants. L'Allemagne, qui fait longtemps référence en Europe, c'est 800 morts par million. Donc, on a un rapport de 1 à 10 avec l'Allemagne et les Philippines, ce qui est assez mystérieux puisque, vous savez, il y avait eu ces explications d'un particularisme asiatique vu de loin. Il serait soi-disant plus obéissant, plus docile, avec plus d'hygiène, ce qui est totalement faux puisqu'il n'y a pas d'unité asiatique. Il n'y a rien de commun entre un pays comme le Laos et un pays comme le Japon. Et donc, il n'y a pas d'explication culturelle possible. Et donc, c'est assez mystérieux d'avoir des bilans aussi différents. Dans un pays comme le Taïwan, on est à 3 morts par million d'habitants, si vous voulez.
Oui, vous parliez du Laos, mais il y a aussi effectivement ce cas du Laos, du Cambodge. Moi, j'ai déjà envie de préparer mes valises pour y aller. Zéro mort identifié ?
Zéro mort identifié au Laos, zéro mort identifié aussi au Cambodge, juste à côté. Alors, ce n'est pas des pays qui ont des réseaux sanitaires extrêmement développés, ce n'est pas des pays qui ont des états très forts, mais les gens sur place que je connais me disent qu'il n'y a pas eu, les hôpitaux n'ont à aucun moment dit qu'ils étaient submergés par des cas. Donc, même s'ils ont raté quelques cas, ça pourrait être quelques dizaines seulement, mais voilà, officiellement, c'est toujours... zéro. On peut faire confiance à des pays qui ont des états beaucoup plus développés, même s'ils ne sont pas très riches, comme le Vietnam par exemple, et c'est minuscule. C'est quelques dizaines seulement de morts pour un pays immense qui a fermé ses frontières assez tard et qui est très exposé au mouvement et qui est très proche de la Chine, parce qu'il y a une frontière entre le Vietnam et la Chine. Donc, si vous voulez, il y a d'autres pays d'Asie du Sud-Est qui surveillent, dont les stats sont plus fidèles et qui n'ont absolument pas vu de pic des cas. Et vous êtes sur des pays qui ont dépassé des semaines et des semaines sans plus aucune nouvelle infection.
Vous parliez d'états plus ou moins développés. On a des infos aussi de ce qui se passe en Corée du Nord ?
Corée du Nord, ça reste assez mystérieux. Donc, le discours officiel du Parti des Travailleurs, qui est le parti unique du groupe de Kim Jong-un, de l'exécutif emmené par Kim Jong-un, dit qu'il y a zéro mort depuis le début de la crise. Les gens dans les ONG à qui j'ai pu parler du sujet me disent qu'il y aurait, à leur avis, eu des morts sur la frontière avec la Chine assez tôt. C'est-à-dire que les frontières ont été fermées, mais elles restent poreuses. Il y a énormément de trafic entre la Corée du Nord et la Chine qui ne passe pas par les points ouverts entre les deux pays, mais qui passe par un fleuve qui longe les deux pays. Il y a une frontière de plusieurs milliers de kilomètres entre les deux pays. Et donc, il y aurait eu des trafiquants, donc des Coréens du Nord qui passent en Chine pour récupérer des marchandises qu'ils peuvent vendre très cher ensuite sur les petits marchés libres dans les villages de l'ouest de la Corée du Nord. Et bien là, il y aurait eu des cas importés, il y aurait eu des décès. Mais là aussi, les ONG qui sont encore sur place pour l'aide alimentaire n'ont pas vu une envolée des cas, notamment à Pyongyang. Les quelques diplomates qui sont restés après la crise, les premiers mois, parce que maintenant, il n'y en a presque plus, le gouvernement leur a demandé de partir parce que le pays s'est complètement fermé, calfeutré, n'ont pas non plus vu de situation catastrophique en Corée du Nord, qui encore une fois a fermé très 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 tôt ses aéroports et ses lignes de chemin de fer et ses voies terrestres avec la Chine. Donc on ne pense pas qu'il y ait une crise monumentale de la COVID-19 en Corée du Nord en ce moment.
Yann évoquait les particularismes culturels en Asie, et notamment le port du masque fréquent au Japon ou en Chine. On ne s'y fait pas non plus la bise, ni un baiser à la russe période soviétique. Quant à la nécessaire distanciation sociale, le Japon peut aussi compter sur RoboVie, un humanoïde à roulettes qui rappelle les règles aux clients d'un magasin de fringues d'Osaka. Il peut même vous indiquer s'il y a des soldes sur les pulls col en V, le tout avec les habituelles formules de politesse propres au pays. Yann, comment les gouvernements locaux expliquent-ils cette résistance au virus ?
Alors, le port du masque, il est très commun en Corée du Sud et au Japon. C'est-à-dire que c'est quelque chose que vous voyez tous les hivers. Dès qu'il y a des épidémies de grippe, les gens mettent des masques assez rapidement. On le voit un petit peu en Chine, mais ce n'est pas du tout commun en Asie du Sud-Est. Donc, ça a pris beaucoup plus de mois. Et alors, il n'y a pas eu le même débat qu'en Occident, mais en Asie du Sud-Est, ils se sont mis au masque vers le mois de mars. Par exemple, je pense à Singapour, où les communautés japonaises, qui sont assez fortes, hein, et coréennes à Singapour, ont très vite mis le masque. Et des Singapouriens qui étaient plutôt surpris, qui ne comprenaient pas ce qui se passait, qui, eux, finalement, ont attendu que leur gouvernement leur demande de le faire. Et donc, on a eu une adoption du masque un petit peu tardive en Asie du Sud-Est, un petit peu comme en Occident. Le pourquoi de ce mystère du faible taux de contamination et de mortalité en Asie de l'Est, ça reste une grande énigme hein, pour tout le monde. Les gouvernements, ils ont chacun mis en scène, soi-disant, leur propre réussite, c'est-à-dire qu'ils sont ravis de pouvoir montrer à leur population que ça va très bien pour eux. Regardez les pays d'Europe, regardez la France, regardez maintenant l'Allemagne, regardez l'Italie, regardez les États-Unis, nous on a bien agi. Donc ils se sont un petit peu auto-congratulés, mais ça n'a pas vraiment de sens parce que, encore une fois, si vous regardez purement sur le plan statistique, les pays les plus pauvres d'Asie du Sud-Est, encore une fois Cambodge, Laos, font mieux que le Japon, la Corée du Sud, Singapour et Taïwan, qui sont les pays les plus développés de la zone, avec les meilleurs réseaux sanitaires, les meilleures recherches et des populations qui suivent à peu près ce que leur demande leur gouvernement. Donc, ça reste très mystérieux. Donc, on part dans des explications maintenant plus scientifiques. On est au début de ces recherches. Il y a deux pistes. Il y a une piste génétique et il y a une piste immunitaire. Donc, la piste génétique, ça serait de savoir est-ce qu'il y a une forme d'immunité asiatique, c'est-à-dire est-ce qu'il y a dans l'ADN ou dans le génome ou dans le système des gens qui vivent en Asie, des particularismes, des particularités qui font qu'ils sont moins susceptibles de tomber malades. Alors, il y a beaucoup de travaux sur ce sujet. Rien n'est conclusif encore et c'est très dur à prouver. Il y a une équipe australo-américaine qui a beaucoup travaillé donc sur des génomes d'habitants de l'Asie de l'Est et qui a découvert des protéines différentes de celles des Occidentaux ou des Africains, des Caucasiens pour le dire, ou des Africains, puisque c'est en fait des particularismes raciaux de populations différentes. Et ils disent qu'il est possible qu'il y ait une différence, mais ils n'arrivent pas à prouver pour l'instant que ces différentes protéines qui interagissent avec le virus sont vraiment responsables d'un tel écart. Ils disent qu'il est possible qu'elles jouent à la marge, mais ça ne peut pas tout expliquer. On sait déjà, vous savez, que les maladies infectieuses, en fait, n'ont pas le même effet en fonction des populations. Par exemple, si vous regardez le paludisme, eh bien, il y a des populations en Afrique qui sont beaucoup moins susceptibles d'être malades que des Caucasiens. Donc, ça va se faire sur le fait d'une sélection naturelle. On est tous aujourd'hui les descendants de générations précédentes qui ont souffert de grandes épidémies. Et il y a une sélection naturelle, c'est-à-dire une partie de la population à chaque grande épidémie est éliminée. Et ceux qui survivent, c'est ceux qui, par chance, hein, ont une particularité génomique qui fait qu'ils vont surmonter la maladie ou mieux y résister. Donc, par exemple, les habitants des îles du Cap-Vert, quand on fait leur génome, on a découvert que la moitié de la population a aujourd'hui un gène dit variant qui bloque la réception des parasites du paludisme et qui est donc beaucoup moins susceptible d'être gravement malade que des Caucasiens qui seraient dans la même île du Cap-Vert. Ça lié à 500 ans d'histoire avec des navigateurs portugais qui étaient allés s'installer dans ces îles et qui avaient amené avec eux des esclaves qu'ils avaient capturés en Afrique. Donc, il s'est développé là-bas un gène variant. Donc, il y a d'autres maladies, notamment le HIV, où on a découvert des susceptibilités différentes en fonction de votre population ou de votre race. Mais dans le cas du COVID, de la COVID-19, on n'arrive pas encore à le démontrer. On est qu'au début des recherches. Et donc, les chercheurs, même les généticiens qui travaillent sur ce sujet, pointent plutôt l'explication de la mémoire immunitaire. C'est-à-dire que votre corps, au fil de l'exposition à des virus, à des maladies, il apprend à gérer ça. Et donc, il y a énormément de maladies type coronavirus en circulation en Asie de l'Est, avec énormément qui sortent de Chine. On connaît donc les SARS, on connaît le MERS, mais il y en a aussi plein d'autres. Chaque année, qui sont en circulation et qui sont pas forcément aussi mortels, aussi difficiles, et mais que les gens qui habitent la région, ils sont soumis et leur corps à chaque fois apprend à combattre ces coronavirus. Alors vous allez avoir l'impression d'avoir en fait une petite grippe ou un gros rhume. Vous aviez un coronavirus et vous avez pris vos médicaments sans le savoir parce que c'était pas un coronavirus très brutal comme celui de cette année. Et donc votre corps à chaque combat contre l'un de ces virus, il va enregistrer ce combat, il va aller créer dans le système immunitaire une bibliothèque des pathogènes. Et il est très probable que quand cette année la COVID-19 a frappé les populations de la région, eh bien leur système immunitaire était mieux préparé pour combattre ces coronavirus, puisqu'elle en avait rencontré des cousins ou des morceaux dans les années précédentes. C'est-à-dire, si vous avez aujourd'hui 50 ans et que vous habitez au Japon, il est possible que vous ayez encaissé dans le passé, survécu dans le passé, digéré dans le passé des attaques de coronavirus et que donc votre système immunitaire est mieux protégé. Donc, vous allez le recevoir, vous allez être aussi contaminé, mais vous allez moins le sentir et il y aura une susceptibilité à que ça tourne dans une maladie très grave et à la mort beaucoup plus faible. Alors, on n'est qu'au début de ce travail de recherche. Il y a des laboratoires qui travaillent là-dessus en ce moment au Japon et qui font le génome des gens qui sont très gravement malades et le génome des asymptomatiques pour essayer de comprendre ça, de comprendre cette réaction. Mais c'est une des explications qui paraît les plus probables pour expliquer que toute l'Asie de l'Est sont en train de traverser la crise beaucoup mieux que l'Occident.
Vous évoquez la mise en place, c'est ça, d'une coronavirus task force, c'est ça? C'est vraiment un angle de recherche très important et qui pourrait permettre aussi de mieux comprendre cette résistance?
Exactement, la coronavirus task force, c'est un gros mouvement scientifique. C'est plusieurs facs, plusieurs universités de médecine du Japon, les plus grandes, avec le centre de recherche de la santé nationale qui se sont associés pour essayer d'étudier des génomes le plus rapidement possible, d'étudier des systèmes immunitaires, pour essayer de comprendre pourquoi est-ce que les Japonais, là on travaille sur des génomes japonais, ont mieux résisté? Qu'est-ce qui s'est passé? Si vous voulez, c'est toujours plus agréable de dire oui, c'est culturel, on est plus propre, on est plus, on obéit mieux, on lèche pas les barres du métro ou les poignées des portes, nous on n'est pas des sauvages. Mais ça ne tient pas cette explication, puisqu'encore une fois, il y a d'autres pays qui n'ont pas du tout cette culture, qui ont résisté aussi bien. Donc les chercheurs japonais, en association d'ailleurs avec d'autres universités dans la région, essayent de comprendre et de démontrer qu'il y a quelque chose de plus profond qui peut expliquer cette forme de, encore une fois, ce n'est pas une immunité, mais une plus faible susceptibilité à cette Covid-19. Donc la task force, la coronavirus task force, comme elle s'est elle-même appelée, est en plein milieu de ses recherches. On n'a pas encore les résultats de leurs travaux, peut-être dans les mois qui arrivent, début 2021.
Tout cela me fait penser à la guerre des mondes de H.G. Wells, portée à l'écran en 1953 par Byron Haskin. Cette invasion d'extraterrestres hostiles vaincue non pas par des tanks ou des missiles, mais par l'infiniment petit. Yann, cette idée d'une immunité régionale, elle est partagée dans le monde scientifique?
Ça fait énormément de débats. Il y a personne qui ose vraiment le dire directement. Il y a beaucoup de chercheurs, encore une fois, qui en parlent. Alors, c'est toujours compliqué parce que ça voudrait dire que, enfin, ça confirmerait qu'il y a une forme d'inégalité face à la maladie. Ça peut être un sujet parfois tabou, vous savez, c'est pas quelque chose dont on parle, notamment, alors, en Asie, ils sont moins gênés pour parler de ça, mais en Occident, notamment en France, dans les interviews des chercheurs que j'ai faites, ou aux États-Unis, j'ai parlé avec un professeur sur ce sujet. Ils m'ont dit de faire un peu attention avec l'utilisation des mots, parce que dire que les races seraient inégales par rapport à des maladies, c'est toujours compliqué en ce moment de le dire. Alors, si l'explication qui sort à l'issue de ces recherches, c'est cette mémoire de la maladie, cette mémoire du système immunitaire, alors à ce moment-là, on n'est plus sur un dossier de race, mais de géographie, c'est-à-dire que tous les gens, qu'ils soient noirs, caucasiens ou asiatiques, qui vivent dans la région, sont soumis aussi, eux, depuis des années. Par exemple, moi, ça fait une vingtaine d'années que je suis dans la région, donc d'après cette explication, il serait probable que j'aurais aussi été soumis à tous ces coronavirus et que je serais donc moins susceptible de tomber gravement malade que si j'avais été installé pendant des années en France. Donc, si cette explication est la bonne, elle fera moins débat, fera moins tabou. Mais encore une fois, aucun des chercheurs que j'ai interviewés ne l'affirme à 100%. Il dit, voilà, on pense qu'il faut aller dans cette direction. Ils sont tous interloqués par la différence de mortalité. Encore une fois, ce chiffre des 2% de morts, alors que c'est 30% de la population mondiale, ça ne peut pas être que le masque et je me lave les mains. Ça n'a pas de sens. Plus personne n'ose dire ça. Mais quelle est la conclusion scientifique? Comment on va le démontrer? En gros, on est sur encore des années de recherche, comme le dit un des chercheurs que j'ai eu à l'université de l'Arizona, David Hénard. Il me dit qu'il y en a encore pour très longtemps avant qu'on comprenne vraiment ce qui se passe et ses particularismes régionaux.
Merci Yann Rousseau, correspondant des Échos au Japon, pour ses explications claires sur un sujet compliqué. Malgré tout, depuis quelques jours, le Japon s'inquiète face au risque d'un réveil épidémique. Le Premier ministre japonais Yoshihide Suga a déclaré il y a quelques jours un nouvel état d'urgence dans la région du Grand Tokyo et dans cette nouvelle préfecture. Le pays a dépassé récemment la barre des 5000 nouveaux cas en 24 heures pour la première fois. Par sécurité, le coup d'envoi du championnat de rugby a été reporté, tout comme l'ouverture du parc Nintendo, qui devait voir le jour dans le parc d'attractions d'Universal Studios. Je vous laisse donc avec un japonais pur jus, l'acteur Pikotaro, qui vous rappelle un principe de base face au coronavirus.
I have a hand. I have a soap. Wash, 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 wash.
La Story, le podcast d'actualité des Échos, s'est terminé pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts. N'hésitez pas à vous abonner et à partager vos émissions préférées. Pour l'information en temps réel, rendez-vous sur leséchos.fr.